Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Isabelle Tchekaïevski, bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Méjean, bonjour.
Bonjour.
Alors tous les deux, vous travaillez à la communauté de communes sur la gestion des déchets, entre autres. Mais c'est surtout comme ça qu'on le connaît, Philippe. Nous, en tout cas, à l'antenne, depuis un certain temps, on suit ça vraiment de très près, j'ai l'impression, à chaque nouvelle évolution. Et l'arrivée d'Isabelle en est une. Tu es nouvellement embauché sur un poste que c'est tu vas ça. Nous décrire.
C'est ça. Donc j'ai rejoint la communauté de communes il y a 3 semaines maintenant en tant qu'animatrice prévention déchets. Le but de cette, mes missions sont donc d'essayer de travailler sur la réduction et le réemploi des déchets sur le territoire du Diois, en commençant par le compostage, essayer de développer le compostage sur le territoire. Collectif dans un premier temps, puis aussi à visée individuelle. Sur la partie réemploi de matériaux entrant actuellement en déchetterie, les premières cibles seront les végétaux et le bois. On reviendra dessus un peu plus tard peut-être pour développer un peu. Et enfin, la partie tri, donc en tant qu'ambassadrice du tri. Et donc un premier sujet étant la partie qu'on appelle corps plat, donc les cartons. Et les colonnes de tri bleues.
Philippe, tu es venu avec des papiers, des statistiques.
Oui, l'émission que vient de décrire Isabelle, ça correspond à des gisements d'économie et de valorisation de déchets qui aujourd'hui sont mal valorisés et nous coûtent cher. Donc si on prend les choses dans l'ordre, le plus important gisement, c'est le compostage dans la poubelle grise. Aujourd'hui, on trouve 35% environ de matériaux fermentescibles, des épluchures de légumes, des restes de repas, des choses qui n'ont pas été consommées bien qu'elles aient été achetées. Et tout ça, ça se composte, ça peut rester sur le territoire, ça peut ne pas faire 65 km pour passer dans une grosse machinerie à Valence. Où ça nous coûte, tout compris, plus de 300 euros la tonne.
Petite question annexe, est-ce qu'à Valence, du coup, il est valorisé quand même, ce déchet ?
Aujourd'hui,
Méthanisé, par exemple ? Aujourd'hui,
il est valorisé, mais à 300 euros la tonne, alors que si on le mettait dans un composteur dans notre jardin ou dans un composteur collectif, il serait valorisé sur le territoire, il servirait en humus sur le territoire, on n'aurait pas à le transporter, on n'aurait pas à payer le prix du traitement. Donc, ce serait tout bénéfice pour les contribuables et pour le sol du territoire. Voilà.
À la limite, en local, il pourrait même s'échanger.
Oui.
Je veux dire, ne pas avoir de valeur marchande, mais en tout cas, au moins, il n'aurait pas le coût de dépense. Quoi.
Exactement. Et donc, on va essayer de développer, effectivement, le compostage collectif. Donc, on a aujourd'hui 18 points qui sont en test chez des professionnels, essentiellement. Des centres de vacances.
Par exemple,
voilà, il y en a dans les centres de vacances. Les premiers, c'était au Martouré. Il y en a dans des campings. Les 3 premiers, c'était sur le camping de Riumer, le municipal à Die, et puis le camping de l'Hirondelle à Châtillon. Et on en a dans des équipements collectifs. Donc, il y en a un historiquement au lycée qui fonctionne toujours. Donc, Isabelle va d'abord regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut améliorer. Et ensuite, on lancera une nouvelle vague de composteurs, sachant qu'il y en a des publics qui ont été installés. Il y en a un à Recoubeau, au pied de l'habitat collectif sur la place du village, voilà. Et il y en a un à la Motte Chalancon qui fonctionne. Et on a d'autres demandes, mais on veut s'assurer là que les composteurs sont bien gérés par les bénévoles du quartier qui veillent à ce qu'il n'y ait pas trop de choses qui n'ont pas à être dedans et qui font un petit peu de gratouillage une ou deux fois par semaine pour que tout ça se mélange bien et se composte. Voilà.
Alors Isabelle, justement, ce rôle d'animation, c'est quoi ? Là, dans un premier temps, c'est de voir comment fonctionnent ces composts, si justement il n'y a pas trop de choses qu'on ne veut pas voir dedans, et donc il y a un travail aussi de sensibilisation des populations, des utilisateurs ?
Exactement. Dans un premier temps, c'est vraiment faire l'état des lieux des installations existantes pour voir déjà si elles tournent encore, si elles fonctionnent, et avoir des retours d'expérience des personnes qui s'en occupent. Et puis recréer un lien avec elle, retisser dans l'idéal un réseau donc, qui permettra échange et convivialité autour de ce geste de compostage. Et puis, comme le disait Philippe, dans un deuxième temps, vraiment aller sur des nouvelles installations et dans ces cas-là, réaliser des animations autour de ces nouveaux composteurs.
Dans quel état est ce parc de composteurs aujourd'hui ?
Je ne les ai pas encore tous vus, mais ceux que j'ai vus dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Pas parfait, mais positif. Donc, il y a encore des choses à faire. Mais quand les référents qui s'en occupent, régulièrement, arrivent à gérer cette tâche, ça tourne plutôt bien. Dans l'ensemble, ceux qui apportent, apportent ce qu'il faut. J'en profiterai pour passer un petit message que les miches de pain, c'est mieux de ne pas les mettre en gros, enfin de mettre sa grosse miche de pain dans le compost, parce que ça peut attirer les nuisibles et en plus c'est dur à composter parce que c'est gros. Donc si vous avez des poules à proximité, préférez les nourrir avec ce pain-là.
Ou un cheval.
Ou un cheval ou tout autre animal aimant le pain.
Non mais allons-y justement, qu'est-ce qu'on met pas ? Alors tout ce qui est vraiment gros, le pain, on se dit que ça se composte plutôt bien, il vaut mieux le couper en tranches si on veut vraiment le mettre quoi.
Exactement, même en gros, enfin tout ce qui est gros, il faut mieux le réduire en plus petite taille, c'est l'idéal, même les coquilles d'œufs, si on peut les broyer avant, alors c'est mieux de les mettre sans les broyer, mais si on peut les broyer, c'est au point, par exemple ça suffit, c'est idéal.
Qu'est-ce qu'on met pas d'autre ?
Qu'est-ce qu'on met pas d'autre ? Ben les déchets carnés, dans l'absolu, ils se compostent, mais dans un composteur collectif, même individuel, ça peut attirer les nuisibles, tels que les rats. Au moment de se composter, ça dégage des mauvaises odeurs, donc ça peut être vraiment désagréable pour le voisinage. Et donc voilà pour la partie déchets carnés. Tout ce qui n'est pas biodégradable ne se met pas au compost. Hein, les sacs plastiques, le verre.
Voilà, mais on pourrait mettre son carton et ses papiers.
Oui, alors du coup, on ne met pas un gros carton non plus entier dans le compost. L'idée, c'est de le mettre aussi en petits bouts. Et on part sur des cartons non imprimés. Parce que la partie carton imprimé, il y a les encres et non filmées non plus. Donc c'est vrai que les cartons... ondulé, pourquoi pas, mais en petits bouts. Après, tout est une question d'équilibre entre les cartons et la partie, déchets de cuisine.
Voilà. Et puis, bien sûr, pas son journal non plus, puisqu'il est imprimé. Voilà. Et ça, on le voit quand même, souvent. Mais on peut mettre son mouchoir en papier, par exemple.
Oui. Voilà. Des essuie-tout.
Ouais.
Comment on peut aussi se passer de mouchoirs en papier.
Tout à fait.
Et
voilà.
Des mouchoirs en tissu et des serviettes. Voilà.
Avec plaisir, c'est le moment de le dire.
Je précise aussi sur les sacs en plastique dits biodégradables. Personnellement, je pense que c'est mieux de ne pas les mettre non plus. C'est marqué biodégradable, mais aujourd'hui, dans la
poubelle... C'est-à-dire, ils sont faits en quoi ? En amidon de maïs, ce genre de choses-là ?
Oui, mais il reste souvent une part de plastique fossile, même si plus de 90% est en biodégradable. Et en plus, ils mettent du temps à se dégrader par rapport au reste de la matière organique. Ce qui fait que pour ceux qui gèrent le compost, c'est compliqué. Souvent, ils les enlèvent derrière.
Qu'est-ce qu'on fait de ce déchet, après ? Je veux dire, comment il est utilisé, justement ? Est-ce qu'il est utilisé localement, les petits jardins du coin ?
L'idéal, c'est de le mettre dans son jardin, si on a un compost.
Mais là, sur ces expériences-là ?
Alors, sur ces expériences... Alors, il y en a une qui est vraiment reliée au jardin, c'est celle des jardins partagés à l'Aube, voilà, les potagers rares, qui gèrent un point de compostage qui est collectif, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, de mémoire, avec des gros apports, alors non seulement des apports des jardiniers, mais aussi des apports de plein de gens du quartier, donc on va les aider à renforcer ce point, parce qu'ils sont presque débordés par les apports. Voilà.
Tout le monde s'y est mis autour, quoi.
Tout le monde s'y est mis autour. Ils font un super travail de gestion du point. Donc, ça pose des soucis parce que le compost n'a pas le temps de mûrir. Donc, on va leur donner des bacs complémentaires. On va leur donner de quoi fermer les bacs qui n'ont pas à être utilisés le temps que ça fermente tranquillement, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur d'aiguillage pour ceux qui viennent déposer leur matière fermentée cible. Donc, ça marche très bien. Et c'est réutilisé directement sur les jardins.
Dans le cadre Kubo, par exemple, là, au plein centre du village.
Alors, je pense que c'est l'ESAT qui alimente à la fois le bac à broyat, parce que pour qu'un compost fonctionne bien, il faut mettre tous nos déchets de cuisine, etc. Mais il faut aussi mettre des matières un peu plus sèches, avec un peu plus de carbone dedans. Et ça, c'est du broyat. Ça peut être du carton, on l'a vu tout à l'heure. ça peut être de la paille, voilà, mais c'est bien d'avoir cet équilibre. Donc les AT amènent sûrement déjà du broyat dans le bac, ils gèrent vraiment le tout intégralement, et ensuite le réutilisent. Même sur un composteur de quartier, on n'a pas besoin d'une grande surface pour les pendre. Voilà, ça peut servir en général sur un ou deux jardins. S'il y a des gros apports, ça passe, quoi.
À l'échelle de la ville de Die, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer à terme, à côté des points de collecte, avoir des composteurs comme ça en pleine ville ?
On va y aller de manière ordonnée.
Ouais.
ça dépendra des choix d'implantation que feront les élus, sûrement la mandature suivante, parce qu'il faut qu'on ait un temps de préparation de notre côté. Et on va discuter, puisque sur la collectivité, le choix des élus se porte sur le compostage collectif pour répondre à l'obligation de la loi qui nous dit « traiter à part vos déchets fermentés cibles ». On doit les collecter à part et les traiter à part. Ça ne ferait pas sens de faire une collecte à part en benne ordure ménagère avec un moteur et des tournées spéciales, ou même en benne moitié compartimentée, ça ferait des frais supplémentaires sur des villes beaucoup plus denses qui font ces collectes à part, elles coûtent 600 euros la tonne. Donc c'est une aberration de gérer ce qui peut être une ressource pour nos jardins, alors qu'on a plein de terre autour de nous, comme si on était en ville. Donc le bon sens veut qu'on le gère avec des composteurs collectifs et avec une animation permettant leur bon fonctionnement grâce à une partie des usagers. Puisque sur chaque point, c'est pour ça qu'on ne peut pas le lancer tout de suite, sur chaque point, il va falloir trouver 2-3 référents, organiser 2-3 apéros par an, histoire d'expliquer...
Le boulot d'Isabelle. Quoi.
Voilà, pourquoi ouais. Voilà, c'est un boulot pénible, en fait,
ah, oui,
si on regarde bien.
Comment tu t'y prendras, alors, du coup, toc-toc, vous repérez que c'est à ce lieu-là, et puis on tape voisinage, un peu de porte-à-porte, qui serait intéressé ?
Alors, on n'a pas défini la méthode encore.
Ah,
donc,
okay.
Pour l'instant, ce qu'a dit Isabelle, c'est on fait le diagnostic de l'existence,
oui, oui.
Qui marche, qui ne marche pas, pour avoir un... On va aller voir aussi à des endroits où ça marche. On est déjà allé dans le Trièves. On va sûrement retourner voir nos amis de Diolfi, avec les futurs élus au printemps prochain. Eux ont mis en place un vrai réseau d'animateurs de quartier et qui sont formés carrément donc, par la collectivité. Donc il y a un vrai travail de préparation pour ne pas se rater. Ce qui serait le pire dans cette situation, vu qu'il y a de la prévention d'une partie de la population, peut-être même d'une partie des élus, et c'est logique, c'est une nouvelle façon de traiter ce qu'on appelle un déchet aujourd'hui. Le pire, ce serait de faire des contre-exemples. Voilà. On en a fait quelques-uns jusque-là, mais on ne l'a pas trop dit, donc vous n'allez pas le médiatiser, vous allez nous aider, évidemment.
C'est lesquels ?
On ne vous le dira pas, justement. Voilà. Donc, on apprend. L'avantage des contre-exemples, c'est qu'on apprend de nos erreurs. On va essayer d'apprendre plutôt des erreurs des voisins, voilà, avant d'en refaire chez nous. Et on a plutôt envie d'y aller bien préparé, de manière méthodique, et de manière à ce qu'Isabelle puisse accompagner. Donc, ça fonctionnera par vague. On ne mettra pas tout en service en même temps. Donc, on demande de la patience... aux usagers. Pour que ça marche bien, il faut que chaque groupe soit accompagné de manière raisonnée et qu'on fasse la preuve à chaque endroit que ça marche. Voilà. Et petit à petit, ben, on déploiera. Donc on va commencer par ceux qui ont vraiment envie. Ça, c'est la première règle. Et ensuite, on déploiera au fur et à mesure de logique, peut-être géographique ou d'envie croissante.
Donc on peut imaginer qu'à l'écoute de cette émission, certaines personnes se montent en collectif ou
voilà.
Des mairies demandent « nous, on le veut tout de
voilà.
suite, maintenant ».
On peut gérer... soit des tests, parce qu'on n'exclut pas de faire des tests avec des nouveaux compostages sur quelques points d'ici la fin de l'année.
Voilà.
On a les moyens de le faire, on a l'équipement pour le faire. Il faut qu'on vérifie qu'on ait le temps pour le faire, parce que c'est ça le facteur potentiellement limitant. Et derrière, au pire, ça fera une liste d'attente et des personnes motivées. C'est chouette d'en avoir connaissance dès maintenant, oui. Pas de souci.
Et au fond, vous avez quand même un objectif. Toutes ces vagues peuvent amener jusqu'à... je
ne
sais pas, moi, 2026, et où tout le territoire sera équipé de compostage.
Ah, j'espère que ce sera avant.
Ah bon, voilà.
Voilà. L'idée, c'est qu'on arrive à faire ça entre 3 à 5 ans, oui. Voilà.
Deuxième mission, après le compost, c'est le carton qui est le deuxième gros dossier à bien trier, quoi.
Alors les stats, et après je repasse la
ouais.
parole à Isabelle. Donc le compost, en gros, on trouve 900 tonnes dans notre poubelle encore. Donc... à 300 euros la tonne, même si on fait quelques frais, on a un gros potentiel d'économie. Voilà. Et on pense même pouvoir payer Isabelle avec ces économies-là. Enfin, on espère pouvoir la payer jusqu'au bout de sa mission. Enfin, voilà.
Alors, composter, alors
voilà, donc on va composter.
On insiste.
On insiste. Voilà.
Pour Isabelle.
Voilà. Et le carton, lui, il nous pose un problème de bonne valorisation. Les gens trient plutôt bien les cartons. Ils font l'effort de les mettre à part à 95%. Alors, les cartons, il y a deux types de cartons. Il y a des cartons plats qui sont en couches superposées les unes aux autres. C'est une boîte de céréales, une boîte de paquets de gâteaux, par exemple.
C'est de la feuille rigide.
De la feuille rigide, voilà. Ceux-là vont dans la colonne bleue avec les papiers et ils passent sur la chaîne de tri du Citrade à Porte-les-Valence. Ils sont triés en 4 ou 5 catégories avec les papiers et ils sont envoyés jusque-là en train, majoritairement en train encore, me semble-t-il, jusque dans les Vosges où ils sont traités dans une papeterie à Golbey près d'Épinal.
Donc ces cartons-là, ces petits cartons-là, servent à refaire du papier finalement.
10 cartons fins, voilà. Ouais. Alors je ne peux pas dire la destination, j'ai raté la visite malheureusement en fin d'année dernière, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Mais voilà, ils font soit du papier, soit du carton, mais essentiellement du papier. Et de manière générale, le papier est recyclable 5 à 6 fois en papier ou en carton. Ça dépend des longueurs de fibres. Au bout d'un moment, quand les fibres sont trop courtes, ça va devenir du papier type papier hygiénique. Voilà. Et au final, si ça ne peut vraiment plus faire grand-chose, ça finira en ouate de cellulose. Donc, c'est réemployable quasiment à l'infini, avec des natures différentes. Donc, c'est toujours valorisé, un papier que vous triez. Il faut le savoir. Deuxième catégorie de carton, le carton ondulé. Vous le trouvez dans les cartons de pizza, pour les plus petits d'entre eux, dans votre carton de bière que tu citais tout à l'heure.
Enfin, hors antenne.
Voilà, consommation de la radio.
Voilà, parce que nous, on s'est fait épingler, hein, on peut le dire,
voilà,
comme
donc,
certains.
Voilà, donc des cartons de jus de fruits, alors, s'il faut corriger le tir.
Voilà, nos cartons de casque, nos cartons de
voilà,
notre matériel.
Et des cartons, et bien sûr, les cartons de plus grande taille.
Informatique, voilà, tout ça.
Mais tous les cartons ondulés vont en déchetterie. Alors, on avait une petite tolérance en disant de petite taille, pourquoi pas, etc. Donc, on a changé nos étiquettes parce qu'on s'aperçoit, en fait, que ces cartons occupent, sur certains points, comme le Mazel qu'on a caractérisé récemment. On a regardé tout ce qu'il y avait dans la benne à carton. Ben, plus de 50% du volume était occupé par ces cartons. Et c'était 25% du poids. En moyenne, c'est plutôt 20%, 20-25% du volume et 10 à 12% du poids quand on fait la moyenne de ce qu'on trouve dans nos colonnes sur le territoire. Et ça nous pose un souci parce qu'on perd une partie du gisement de carton ondulé qui, normalement, va moins loin et nous rapporte plus. Si vous l'apportez en déchetterie, il ne passe pas par la chaîne de tri. La benne de déchetterie est amenée à Porte-les-Valence au Citrade, mais elle ne passe pas sur la chaîne de tri, elle est juste mise en compaction. Ça fait des gros ballots de carton. Et c'est envoyé dans le Nord-Drôme. Donc, ça fait beaucoup moins de kilomètres. Et c'est transformé à l'usine Émain-Lédier, qui est une papeterie dans le Nord-Drôme.
Pour refaire du carton.
Et pour refaire peut-être du papier, me semble-t-il. Mais voilà. Donc, c'est du carton, pardon. Voilà. Bon, du carton, autant pour moi. Et donc, voilà.
Toi, tu l'as visité, le site, c'est ça?
J'ai pu visiter Émain-Lédier, en effet.
Voilà. Bon, donc du carton. Mais du coup, c'est un circuit court. Et c'est aussi un circuit qui nous évite tout un tas d'ennuis mécaniques. Du carton ondulé de grande taille mis dans des colonnes de tri bleues aériennes. Non seulement ça prend trop de place parce que ça se redéploie dedans, mais ça bloque aussi les systèmes d'ouverture et de fermeture. Et ça empêche une bonne partie des contenus de colonne de tomber. Donc ça fait faire des manipulations un peu hasardeuses aux chauffeurs pour gratter à la pelle et ensuite tout ramener dedans ou gratter en étant perché au-dessus de la benne. Voilà, donc c'est pas super. Et ça bloque aussi la chaîne de tri à Porte-les-Valence parce qu'elle n'est pas faite pour accepter des cartons de grande taille. Et donc la balistique et les endroits où l'encombrement ne passe pas, ben ça bloque la chaîne. Voilà. Donc, évitons, et même ne mettons pas, les cartons ondulés dans les colonnes bleues. C'est en plus un matériau sec, a priori inodore. Alors, s'il est souillé, faites une exception, mettez-les dans la colonne bleue, mais qu'on peut garder chez soi, qu'on peut entasser, bien plier. Et quand on va à la déchetterie, ben on prend ses cartons avec ce qu'on amène aussi à la déchetterie. Voilà. Donc, c'est tout le travail que de donner des bonnes solutions. Et donc là, Isabelle va développer sur comment elle va s'y prendre pour donner des bonnes solutions à ceux qui jettent des cartons encore dans ces bennes où il ne faut pas.
Oui, Isabelle.
Alors,
je prends un exemple quand même. Ce carton de pizza, là, notamment par exemple au Mazel, on imagine en centre-ville, ça va être quasiment impossible. Et si les gens ne peuvent plus jeter leur carton de pizza là, vite fait, comme ça, ils vont le mettre dans la poubelle classique des villes. C'est un risque, non?
Non. Il ne faut pas se faire peur.
Les gens, mauvais. Hein.
Donc, on aura des gens qui vont chercher la petite bête, comme toi. On aura des gens râleurs. On aura des gens... Mais on aura très peu... Quelqu'un qui veut trier, en général...
Il finit par le faire.
Il, Ouais. Oui, mais il cherche à faire le meilleur tri, il a une bonne volonté. Donc nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement... Parce que si les gens les jettent aujourd'hui, c'est soit qu'on a été mauvais en communication, elle n'était pas assez percutante, ou on a été un peu trop lâche en disant bah « ouais, on fait des exceptions », mais au final, on s'aperçoit que bah, ça nous pose trop de problèmes. Donc on va revoir ces personnes-là, on leur dit bah, « super, merci pour le geste, mais attention, il faut l'améliorer ». Et si vous avez des problématiques évidentes, il y a des gens qui manquent de place, qui n'ont pas pu ou pas eu le temps de former leurs salariés pour les saisonniers, par exemple, ben on va leur apporter des solutions clairement. C'est ça que va faire Isabelle. Voilà.
Oui, du coup, on se rend compte qu'en général, c'est plutôt pas une question de mauvaise volonté, mais une question de méconnaissance de ce qu'il faut mettre dans le bac. Donc c'est vrai que la signalétique sur le bac a été changée il y a peu de temps.
Cet hiver, pour
justement aider un peu plus les personnes qui apportent leurs papiers et qui apportaient leurs cartons, puisque maintenant, avec cette émission, c'est terminé, dans le bac bleu. Donc, on va vraiment essayer de faire plutôt un travail de sensibilisation et en effet, plutôt viser des professionnels, essayer de les accompagner, puisque souvent, ils ont beaucoup plus de cartons à gérer sur des espaces souvent restreints. Donc, pour essayer de trouver des solutions, soit de mise en commun entre professionnels, essayer de monter de l'entraide et du collectif pour qu'il y ait un tour, par exemple, d'apport en déchetterie, que les, ceux qui ne sont pas motorisés puissent travailler avec leurs voisins. Ça, c'est une première solution. Il pourrait y avoir aussi Donc là... Ce n'est sans accord de ma connaissance de ces boutiques, mais si des vendeurs rapportaient les cartons peut-être aux revendeurs type alimentation, s'ils sont en local, pour qu'ils reprennent en charge les cartons comme ils gèrent les leurs déjà. Voilà, des choses, on espère pas trop compliquées et qui peuvent simplifier le quotidien pour la gestion des déchets.
La question de la tournée, justement, ça rejoint un petit peu ce que j'avais évoqué aussi la dernière fois. Est-ce que cette collecte de cartons ne pourrait pas être aussi collectivisée avec un nouveau bac ?
La porte est ouverte, mais c'est une histoire ancienne, puisqu'il y a eu collecte de cartons de longue date.
Eh oui.
Donc c'était une collecte en porte-à-porte au démarrage, donc qui a été faite à la demande de la commune, enfin mise en place par la commune, faite ensuite par l'Interco à la demande de la commune. On a mis en place des bacs qui initialement étaient réservés aux commerçants avec des clés. La gestion n'a pas été rigoureuse, on va dire, puisque les bacs sont restés ouverts, des fois même capot levé.
Aïe, aïe.
Et on y retrouvait tout et n'importe quoi dedans. Pas forcément du fait des commerçants, hein, mais on y retrouvait tout et n'importe quoi dedans. Et du coup, à côté, puisque ça débordait. Donc, cette mauvaise gestion, au moment où... on a arrêté le service de collecte en bac pour les ordures ménagères. On n'avait plus de camion pour collecter ces bacs cartons. Donc on s'est posé la question de savoir si on pouvait continuer ce service. Mais le souhait de la commune et des élus intercommunaux qui s'y sont associés, c'était que cette collecte soit rémunérée pour que le geste soit vraiment respecté et que ce ne soit pas un service mal utilisé et négligé. Et on n'a pas trouvé pour l'instant suffisamment de commerçants prêts à mettre en place un système de collecte qu'on pourrait organiser. Alors là, on a ouvert toutes les portes, hein, Isabelle les a redites. Donc le système D, l'entraide, c'est évidemment la moins coûteuse. Voilà, ça suppose des petites coordinations entre personnes.
Auxquelles vous participeriez, c'est-à-dire que vous seriez prêt à
mettre
en place
tous les moyens d'animation nécessaires.
Voilà, les plannings, les...
On mettra tous les moyens d'animation nécessaires permettant la mise en place de solutions efficaces. On n'est pas là pour embêter les gens dans la gestion de leur geste de tri, au contraire, pour la faciliter. Par contre, il faut que ce soit une gestion efficace et respectueuse de la salubrité publique. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà. Et après, on est dans un milieu assez contraint sur dit, hein, puisque on doit résoudre des questions d'exiguïté des commerces qui ne peuvent pas toujours stocker. Donc, il faut qu'on puisse gérer un flux en continu. Donc c'est du dépôt libre, alors, c'est ce qu'il y avait, mais il n'était pas respecté. Alors est-ce qu'il faut le faire enfermer ? Est-ce qu'on a... On n'a pas forcément de place pour mettre des bennes extérieures ? Donc on tourne autour de solutions qui sont toutes compliquées et on l'adoptera collectivement avec la juste rémunération de ce service par ceux qui l'utilisent. Voilà.
Et l'autre problème soulevé, c'est celui des transporteurs ou des fournisseurs extérieurs au territoire qui sont censés, selon les lois aussi, normalement reprendre. Alors là, ça a été soulevé, Isabelle, mais ça, c'est pas du tout le cas. Personne ne reprend son carton. Personne ne déballe d'ailleurs son carton dans la foulée. Comment c'est gérable, cette chose-là ? C'est impossible.
Il y a des pays où les citoyens ont agi massivement, en rapportant leurs déchets dans les supermarchés, par exemple. C'est pas des choses qui sont à exclure. Nous, on va pas faire de l'agitation à cet endroit-là en tant que collectivité.
Bon, ça a été dit quand même, au cas où.
J'ai pas dit qu'on le préconisait, j'ai dit qu'il y avait des citoyens qui s'étaient organisés à certains endroits. Voilà. Après, nous, on peut éventuellement aider à trouver des relations constructives entre fournisseurs et clients, de manière à ce que le client puisse rendre, c'est ce qu'a dit Isabelle, et ça, effectivement, on peut aider à la mise en relation fournisseur-client pour qu'il y ait reprise systématique. Les gros fournisseurs, en général, ont des systèmes de traitement de leurs cartons pourraient, en théorie, les récupérer. Mmh. Mais ça demande de la coordination, du respect des conditions de reprise par le client. Ça peut être des horaires d'apport, ça peut être des modalités d'apport déjà pliées, etc. Donc, il y a, comme tout geste, il faut qu'il respecte un certain nombre de critères pour être le bon.
Oui, d'autant qu'ils ont surtout le devoir, j'allais dire, financier. Hein, c'est pas en reportant aux clients de devoir traiter ces déchets. Effectivement, les gens n'ont pas envie de faire une tournée, n'ont pas les moyens de stocker, alors qu'en fait, en général, les fournisseurs, eux, l'ont.
Oui,
mais ils auraient un flux tellement fort qu'eux-mêmes valoriseraient.
C'est une problématique particulière, la question de... Les professionnels ont, par la loi, l'obligation de traiter leurs déchets à leurs frais. Encore faut-il que des filières soient organisées sur le territoire pour le permettre. Donc notre territoire, comme d'autres, un tiers de la France à peu près, n'a pas encore mis en place la redevance spéciale et accepte beaucoup les déchets des professionnels en déchetterie. À certains endroits, trop, on en rediscutera peut-être tout à l'heure. Accepte beaucoup les déchets des professionnels en déchetterie, mais ça pèse sur la fiscalité de tout le monde. Donc les élus ont une réflexion depuis plusieurs années. Mais tant qu'on n'a pas fait des déchetteries d'aplomb, on ne peut pas mieux réguler ces choses-là. Et c'est en toute connaissance de cause de l'absence de solutions organisées hors service public. C'est-à-dire que, contrairement à la vallée du Rhône, on n'a pas de déchetteries professionnelles, on n'a pas de système de reprise et de collecte organisée par des privés pour les cartons, par exemple. Donc on doit bien aussi faire la part des choses et il faut donner des solutions. On ne peut pas ne pas proposer de solutions aux usagers. C'est obligé.
On passe au point suivant. Les déchetteries, justement. Allons-y. Parlons-en. Elles sont quand même en belle restructuration depuis un certain temps. Multiplication de certains bacs. Des nouvelles collectes.
Sur ce gisement-là, on a des endroits où on peut faire des économies. En général, c'est bizarre, c'est sur les déchets les plus chers. C'est là qu'on a des apports massifs de professionnels. Et c'est là où on a des apports qu'on va chercher à maîtriser, à réguler, à mieux trier.
Par exemple ?
C'est surtout ce qu'on appelle les encombrants, les déchets industriels banaux. C'est le bois, les gros apports de bois. Et ce sont les végétaux. Donc, c'est les trois principaux postes d'apports massifs en grande quantité, qui théoriquement ne sont pas acceptées en déchetterie. Normalement, on accepte des quantités qu'en deçà de 2 mètres cubes. C'est la règle. C'est une règle nationale qu'on a transcrite dans nos règlements. Mais nos déchetteries ne permettent pas aujourd'hui de surveiller ou d'éviter ça. Donc leur restructuration permettra cette meilleure surveillance, plus de sécurité et plus de tri. Donc de manière générale, sur le bois, par exemple, on séparera du bois qu'on pourra récupérer localement, que sont les palettes ou les cagettes. Donc on va travailler pour ça avec la ressourcerie. Du bois majoritairement traité, qui sera, lui, qui continuera à être envoyé sur la vallée du Rhône.
Les agglos, les trucs comme ça.
Les agglos, oui, mais y compris du bois dont on ne sait pas s'il a été traité ou pas. Donc il y a simplement les cagettes et les palettes non peintes et sans agglomérat. Voilà. Et les bûches aussi qu'on peut mettre, parce que étonnamment, on trouve des fois des bûches de bois dans le tas de déchets verts ou dans la benne bois. Voilà. Donc tout ça restera sur le territoire pour un réemploi local à destination des habitants et via la ressourcerie. Donc Isabelle va organiser ce circuit-là, parce qu'il y a des questions juridiques, des questions financières, des questions matérielles. Mais tout ça, les nouvelles déchetteries proposeront des bennes. Bois, palette, cagette d'un côté et bûches, et le reste du bois de l'autre côté. Donc ce sera la première qui ouvrira. Ce sera Lucandiwa, fin septembre, qui est en cours de rénovation. Ensuite, on passe aux travaux de la Motte, qui débuteront début septembre et qui s'achèveront 4 à 5 mois plus tard, selon les intempéries et le rythme du chantier. Et ensuite, dit, dont les travaux devraient débuter, si tout va bien, à l'automne 2020. Voilà.
Et le reste du déchet vert passe en compostage?
Alors, les végétaux, aujourd'hui, sont tous broyés par la collectivité, avec des qualités de broyage variables. Ils sont tous livrés à des agriculteurs. Mais c'est un circuit qui n'est pas optimum, parce que ça passe...
Pourquoi faire, les agriculteurs?
Soit ils le compostent, soit ils l'épandent en bois raméal fragmenté pour certains directement à même la parcelle, et puis ça fait progressivement un humus. Voilà. Et puis ça, fait aussi, ça peut servir de mulch, hein, c'est-à-dire que pour éviter que la lumière pénètre et voilà, protéger et garder de l'humidité autour de certaines plantations. Voilà. Et l'idée, c'est qu'une partie de ces végétaux aille directement du producteur au consommateur, c'est-à-dire que les végétaux des paysagistes aillent directement chez les agriculteurs, mais broyés. Parce que les paysagistes sont en général équipés, donc on les a déjà prévenus, et Isabelle va finir l'animation pour mettre en place ces relations directes, sachant que le béné des 19 tonnes en déchetterie, ça sera désormais impossible sur celles qu'on réaménage, donc il faut préparer ce changement de...
Ça veut dire que les paysagistes ne pourront même pas, ne pourront plus faire ce...
Oui, mais là, l'idée, c'est de leur trouver la solution avant qu'on les empêche.
Voilà.
Donc, il y aura forcément une rupture, parce que jusqu'au bout, on pousse le bouchon et puis on va vider son camion. C'est plus pratique de le mettre en déchetterie. Voilà. Et on n'a pas moyen de contrôle à dit, donc c'est compliqué. La difficulté avec les végétaux tels qu'ils sont apportés aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas non plus de contrôle du gardien, parce que c'est soit loin sur les plateformes, à Luc, à Minglon, c'était à Luc. Adi,
c'est de l'autre côté.
Pas vraiment surveillé, c'est pas vraiment légal d'ailleurs. Et du coup, on trouve de tout. Il y a des fois de l'oubli, des fois de la malveillance. On trouve des poteaux avec du grillage, on trouve des socles béton, on trouve des bûches. Enfin, et ça, le broyeur, il n'aime pas. Et les usagers qui passent autour, ils n'aiment pas non plus. Voilà.
Ça fait des charges publiques, quoi.
Oui, c'est pas...
On peut le dire.
C'est pas terrible, voilà. Donc, on se doit de proposer un meilleur service, plus normé, plus sécurisé, et avec moins de charges pour le contribuable. Pour des déchets professionnels, c'est normal, ça ne devrait pas être à la charge du contribuable. Et surtout, un meilleur tri pour les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, tous ces oublis qui passent dans le broyeur, là,
finissent dans
des choses qui sont dangereuses pour le broyeuse, mais il y a des choses qui sont simplement du plastique ou des petits bouts de métaux ou de verre qui finissent dans le champ, et ça, c'est vraiment pas souhaitable. Donc, passer en déchetterie, le mettre sur un parapet, avoir un coup d'œil du gardien et bien vérifier que ce qu'on jette, c'est bien trié, c'est aujourd'hui simplement moderne.
Sur la méthode, un peu, Isabelle, comment ça se passe? Identification des paysagistes
Oui, alors ce travail a déjà été fait avant mon arrivée. Donc après, ça n'empêche pas de mettre à jour la liste. Sur la méthode, donc, c'est travailler d'une part avec les agents de déchetterie, pour qu'eux soient vraiment informés et savent différencier et échanger avec les apporteurs. Travailler aussi avec eux, pourquoi pas, en doublon à des moments sur les déchetteries pour les aider, parce que quand il y a beaucoup de personnes qui arrivent, ce n'est pas forcément évident de pouvoir échanger avec tous les apporteurs. Et puis, donc, une partie vraiment animation avec tous les professionnels que ça peut rassembler, donc les agriculteurs d'une part et les paysagistes d'autre part, pour essayer de mettre en place cette filière, définir les modalités d'apport, un peu comme pour les cartons finalement aux fournisseurs, à quel moment, de quelle manière, sous quelle forme, de quel broyat ils ont besoin, etc. Et après, rester, en arrière un peu pour continuer à animer ce réseau, pourquoi pas réaliser une réunion, la fréquence est à définir, pour remettre les personnes autour de la table et échanger avec, etc.
Est-ce qu'il y a la bonne proportion de repreneurs par rapport au dépôt?
Il n'en faut pas tant que ça, puisque ce qu'on cherche à faire aussi avec cette opération, c'est à ne pas faire des plateformes normées qui entraînent des bétonnages, des coûts de traitement, d'aménagement disproportionnés. Et chez nous, et chez les agriculteurs, évidemment, on ne va pas leur demander ça. Donc un éleveur peut accepter jusqu'à, de mémoire, 1000 tonnes par an. Ou 1000 mètres cubes, pardon. Bon, je reverrai mes chiffres, là, parce que je ne les connais pas bien. Mais entre 3 et 5 agriculteurs suffiraient à absorber ce qu'on produit sur Diluc et Châtillon, par exemple. Voilà. Donc on n'a pas de... On n'a pas de gros problèmes pour trouver des exutoires sur le Diois. Voilà. On est sur quelque chose qui explose au niveau des végétaux. On avait 400 tonnes à peu près à porter par an il y a 8 ans. L'année dernière, on avait 1600 tonnes.
Donc, pourquoi être...
Alors, pour deux raisons.
Avant, les gens les jetaient dans le biaou.
Voilà, il y a une évolution culturelle. Les gens prennent le végétal pour un déchet, alors que c'est une super ressource qu'on peut laisser au fond de son jardin. Moi, c'est le premier geste que j'indique à faire. Même si vous avez des branches, ben, ça compostera. En forêt, ça fait de l'humus. Alors, ça prend un peu plus de temps, mais si on a un délaissé, c'est pas dramatique d'avoir des branches au fond du jardin et de retrouver de l'humus quelques années après. On fait des tas chronologiques, petit à petit. Enfin, moi, je faisais ça dans mon jardin et j'ai rarement, voire quasiment pas, apporté de végétaux en déchetterie. Pour tout ce qui se composte plus facilement, à plus forte raison, on peut les garder, on peut même les mettre dans le composteur à condition de faire des petits morceaux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. C'est un réflexe urbain, quelque part, qui arrive en zone rurale. La deuxième raison, c'est l'interdiction de brûlage, donc, qu'il faut impérativement respecter, parce que ce serait la pire des destinations pour un végétal que de finir en carbone dans l'atmosphère. Il vaut mieux qu'il soit stocké dans le sol, ce carbone. Voilà. Voilà. C'est toutes ces raisons qui font qu'on en a de plus en plus. Voilà. Peut-être des interventions plus massives aussi des professionnels du paysage, avec plus de prestations de leur part. Ça peut être une des raisons. Ça, on ne sait pas le mesurer. Voilà. En tout cas, ça a augmenté. Voilà. Et c'est un potentiel d'économie pour la collectivité d'une vingtaine de milliers d'euros par an si on le gère mieux et avec moins de transport aussi. Hein. Il y a un impact carbone du transport si les paysagistes l'apportent directement chez l'agriculteur, mais on a des reprises en moins, des transports en moins. Pour le bois, c'est la même chose. Hein. On évacue aujourd'hui 500 tonnes de bois. On en reçoit plus parce qu'il y a de la récup qui se fait
en
direct. C'est théoriquement interdit, mais on sait bien que c'est...
Ça allait être le sens de ma prochaine question. Là, intéressons-nous à ce bois-là. Alors, effectivement, la récup en direct, on sait que c'est pas autorisé. C'est aussi parfois pour ça que ces espaces sont plus ou moins ouverts, parce que justement, les gens viennent récupérer. Et c'est quand même, je pense, un bon volume qui repart en direct, non ?
En fait, on le connaît pas. On peut pas le mesurer. Je ne peux pas vous dire que les espaces sont faits comme ça pour permettre cette récupération, puisque la récupération est interdite en déchetterie. Par contre, les élus sont extrêmement sensibles au fait que du bois qui pourrait être réemployé localement, des palettes à transformer, des cagettes pour allumer son feu, des bûches a fortiori, il n'y a aucune raison de ne pas le laisser à un prix dérisoire pour les habitants du territoire, puisqu'on a des gens qui ont besoin de se chauffer et à pas cher. Et donc c'est un vrai souhait politique qui reste sur le territoire et de manière accessible. Donc on va travailler cette question avec la ressourcerie. On ne peut pas vous donner aujourd'hui les modalités de récupération qui seront proposées demain, mais on va s'organiser, notamment avec la déchetterie de Die, pour conserver un espace qui permettra une reprise et dans des conditions de surveillance normées et avec un don qui aura été effectivement noté, puisqu'en déchetterie, on n'a pas le droit de récupérer, mais si on met sur la benne cagette palette don pour la ressourcerie, alors on a le droit de le faire.
Donc c'est la ressourcerie qui va
On le versera ensuite sur un tas qui sera géré par la ressourcerie, par eux. On va voir dans quelles conditions, quel accès pour les usagers, etc. Mais l'idée, c'est bien de conserver ce bois pour un usage local et pas au tarif. Alors on n'est pas sur des... Il y a 150 tonnes, hein, enfin, plus ce qui part aujourd'hui, qu'on ne sait pas mesurer. Mais voilà, ça ne va pas faire une concurrence... effréné à la vente de bois sur pied, quoi. Donc, voilà. Et en même temps, c'est une économie sur 150 tonnes à 150 euros. On économise 22 500 euros. C'est pas neutre pour le service.
Et puis, ça en rend un autre à cette ressourcerie. On peut en parler un petit peu, parce que là, quand même, la Comcom appuie très, très concrètement ce projet. Il y a un développement prévu sur la ZAC. Ça va devenir quelque chose de grand. Capable d'accueillir 150 tonnes de bois, d'ailleurs.
Alors, ils seront entre peut-être autres. Accueillis là-bas, oui.
Non, mais...
Donc, il y a effectivement un terrain qui a été acquis à l'arrière du terrain de foot, hein, contre la zone d'activité, par la communauté de communes. On étudie actuellement quatre portages différents avec les acteurs, donc un portage par l'intercommunalité, puis trois types de portages privés, en regardant ce qui coûtera le moins cher au final pour les deux structures principales qui sont porteuses du projet de ressourcerie, que sont Bisusus pour la matériothèque Le Recyclou et le groupe Archer Association R qui gère le dépôt Trésor à Die. D'autres partenaires sont autour, comme le Secours Populaire, et puis un certain nombre d'acteurs qui se mettent en route aujourd'hui pour réemployer au maximum ce qui aujourd'hui s'appelle déchet, mais qui demain s'appellera ressource. Voilà,
voilà, donc il y a la possibilité de création d'ateliers.
De création d'ateliers, on a des demandes sur la reprise d'équipements électriques, sur les tissus, c'est déjà le cas. Voilà, donc il y a tout un tas d'opérations qui vont se mettre en route une fois qu'on aura des locaux adaptés.
Tu participes à l'animation de cet espace, Isabelle ?
Ben,
futur ?
Pas pour le moment, du coup, puisque du coup, ouais, il n'est pas encore vraiment défini. Enfin, en tout cas, il est en cours pour la partie future. Mais à terme, ça fera partie aussi de mes missions.
Par quoi on termine ?
Ah, on a peut-être un petit truc sur les boîtes à dons, parce que c'est un sujet, on a eu des courriers, on a des remarques régulièrement.
C'est-à-dire ?
Une demande d'installation de boîte à dons qui nous a été formulée. Et on a surtout un phénomène qui se développe sur DIY et sur le DIY en général, c'est de laisser des objets récupérables au pied des conteneurs. Geste avec une excellente intention au début, on n'en doute pas, mais geste qui ne trouve pas son objectif en général. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a des personnes qui récupèrent des objets en passant, donc une partie de ces objets-là est récupérée, mais la majeure partie en fait est vue soit par les agents ou les élus municipaux qui font le nettoyage des points, soit par les agents intercommunaux qui font le ramassage et qui ont pour consigne de nettoyer les points. Et
donc il reste pas assez longtemps.
Il reste souvent et parfois à la pluie, aux intempéries. Ils peuvent être un coup de pied dedans par un usager qui a pas envie de les voir et puis ça fait un tas qui se disperse. Quelqu'un qui va chercher ce qui lui plaît, qui laisse le reste en vrac, ça fait un point noir en fait, qui invite à déposer des choses qui ne sont pas forcément récupérables, donc on trouve d'autres objets, donc ça attire des indésirables, voilà. Donc on n'a pas le temps de le faire tout de suite, mais la solution ce serait de travailler sur les boîtes à dons. Donc s'il y a des volontaires autour du compostage collectif, on essaiera peut-être de les accompagner pour ne pas laisser les bonnes énergies se perdre. Mais il faut quelqu'un qui gère ça, parce que sinon ça retourne à la benne. Au mieux, ce sont les services de la commune a dit qu'il les récupère et c'est trié en déchetterie. C'est un moindre mal, mais très souvent ça passe en encombrant ou ça retourne dans la benne ordure ménagère à côté sans être valorisé, alors que ça pourrait aller au minimum à la ressourcerie.
Ben oui.
Le bon geste, la bonne intention du démarrage, elle se traduit par un taux de réemploi souvent moindre que si on l'a porté à la ressourcerie. Donc tant qu'on n'a pas de boîte à dons gérée par des personnes bénévoles sur le mode compostage, parce qu'il faut enlever ce qui a traîné depuis longtemps, il faut nettoyer s'il y a eu une incivilité.
On peut y réimaginer un petit local dans lequel seraient exposées les choses et puis que quand ça reste depuis trop longtemps, ça part à la
ressourcerie. Exactement. Alors il y en a qui font ça, si vous parcourez DIY, il y a des très chouettes initiatives sur des boîtes à livres échangées. Mais c'est géré, c'est-à-dire que la personne qui a mis en place la boîte devant chez elle, elle ne va pas laisser sale. Voilà, tant que ce n'est pas sur la voie publique, le privé il va faire son boulot. Si c'est sur la voie publique, aujourd'hui, on n'a pas de mode de gestion adapté. On n'est pas capable de l'organiser. Donc, il va falloir qu'on passe par du réseau de bénévoles. Et pourquoi pas accompagner des opérations comme ça ? Il faut qu'on se donne le temps d'eux. Mais en parallèle du compostage,
en tout cas, c'est très identifié.
Voilà. Donc, s'il vous plaît, cette bonne intention, soit passer par des réseaux de dons existants. Il y a des zones de gratuité à l'espace social. Il y a un collectif qui existe, qui gère des événements autour de la gratuité. Vous pouvez donner ou vendre à l'occasion des brocantes. Vous pouvez donner aux associations qui gèrent la ressourcerie. Donc, il y a plein d'autres façons. On est plutôt riche sur le territoire en initiatives.
Ouais.
Utilisons-les plutôt que de laisser par terre des choses qui vont être mal employées derrière ou qui donnent une impression de négligence autour des points d'apport.
Isabelle, Philippe, merci.
Merci à toi.
Pour ce grand tour. On se revoit quand la prochaine fois ? C'est quoi le prochain grand projet ? On avait parlé d'un camion la dernière fois, c'est fait.
Alors, y a un camion qui va être remplacé en septembre et la déchetterie de Luc qui va ouvrir en septembre.
Voilà,
donc, on pourra peut-être faire une petite émission sur l'ouverture de la déchetterie de Luc et les nouveaux gestes.
Complètement restructuré. Hein.
Ah oui, ça va être plus moderne, plus trié, mais ça va être des nouveaux gestes. Donc, il y a des nouvelles habitudes à prendre et on aura des gens qui seront réfractaires ou qui râleront. Et puis des gens contents, j'espère aussi.
Ah bah oui. Eh bien, ce sera l'occasion. À bientôt.
À bientôt, merci.
À bientôt. Interview.
Ok, de bail.
L'interview du jour.